Vous êtes sur RTL.
1h30. RTL.
Le journal inattendu.
J'ai envie qu'elle m'embrasse. Et si tu pleures, dis-moi que personne te fait aussi mal que moi.
Est-ce que vous n'avez jamais bataillé pour un enfant? Est-ce que vous n'avez jamais bataillé?
J'avoue, j'en ai pas fait pas vous, mon amour.
Parce que vous avez peur de perdre quelqu'un, parce que vous voulez attraper quelqu'un d'autre, parce que vous êtes jalouse, parce que vous êtes insupportable, parce que vous voulez tout. Est-ce que vous n'avez jamais bataillé?
Ne vous de plein.
12h30, 13h30.
En dansant le j'avenir.
Jane Birkin est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Avant, j'avais un accent épouvantable. Mais ça, c'était là avant.
Le temps d'une chanson.
Bonjour Jane Birkin.
Bonjour.
Merci de prendre pour une heure les rênes de ce journal inattendu. À l'occasion de la sortie de Postscriptum, c'est le deuxième volet de vos carnets intimes après Monkey, d'ailleurs, il est sorti l'an dernier. Des confections, des réflexions, un récit au cri, au fil du temps, sur votre nouvelle vie à l'époque, l'après Serge Gainsbourg, avec vos trois filles, Kate, Charlotte et Lou, jusqu'à ce tragique 11 décembre 2013, lorsque vous avez cessé d'écrire ce journal. On va bien sûr le feuilleter avec vous. Accueillir votre invité, le professeur Vincent Lévy, hématologue à l'hôpital Avicenne, où vous avez passé des mois. On va aussi plus légèrement faire nos courses bio sur ces marchés parisiens que vous connaissez bien à Saint-Germain et Place Monge. Ce sera votre reportage inattendu. On accueillera en fin d'émission Bulogier, qui elle aussi publie ses mémoires. Dans un instant, ce sera l'info. Vous allez pouvoir la commenter si vous le souhaitez. Mais avant cela, vous qui nous avez ouvert votre vie en deux volumes de 500 pages, maintenant, il faudrait vous livrer à cet exercice de l'autoportrait en quelques dizaines de secondes. Est-ce possible?
Je me présente, je m'appelle Jane. Ça fait 50 ans que je vis en France. J'étais la compagne de Serge Gainsbourg, j'ai chanté ses chansons depuis mes 20 ans. Et j'ai fait une cinquantaine de films, des pièces de théâtre, des concerts. J'ai eu trois filles, Kate Barry, de John Barry, Charlotte Gainsbourg avec Serge Gainsbourg et Lou Doyon avec Jacques Doyon. J'ai écrit des chansons, une pièce de théâtre, un film, j'ai publié mes journaux intimes. Mais je suis connue en fait pour une chanson. Je t'aime moi non plus.
Tout est presque dit avec Jane Birkin pour ce journal inattendu. On commence par l'actualité, Jane, dominée par le choc et la polémique en Grande-Bretagne. Après l'attaque au couteau de London Bridge qui a fait deux morts hier, le terroriste abattu par la police était sorti de prison l'an dernier après avoir effectué la moitié de sa peine de 16 ans. Il avait été condamné à l'époque pour terrorisme et il portait d'ailleurs un bracelet électronique. On sera à Londres dans un instant. Une grande marche silencieuse ce matin à Mirepoix-sur-Tarn en hommage à l'adolescente et au chauffeur du camion mort dans l'effondrement d'un pont il y a 15 jours. Des dépôts pétroliers bloqués dans l'ouest de la France par des entrepreneurs mécontents de la suppression de la niche fiscale sur le gazole non routier. La grande collecte de la banque alimentaire ce week-end dans 8000 supermarchés. Et puis Bernard Tapie, le spectacle malgré la maladie, le metteur en scène Philippe Hersen annonce que l'ancien patron de l'OM va remonter sur scène au printemps pour vol au-dessus d'un nid de coucou. Bernard Tapie qui a dû apprécier la victoire de l'OM hier soir, suite de la Ligue 1 cet après-midi, 17h30, Strasbourg-Lyon. À 18h30, le tirage au sort de l'Euro. Au championnat du monde de handball féminin, mauvais début pour la France, battue par la Corée du Sud. Et puis le temps, Valérie Quintin, c'est humide à l'ouest, ça s'est bien rafraîchi partout d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que les températures ont bien baissé, mais les pluies sont arrivées sur l'ouest. On a déjà de bonnes pluies actuellement entre la Bretagne et le Pays Basque, et ça va rester en place pratiquement toute la journée, des pluies qui vont progresser très très lentement vers l'est, donc on les retrouvera en toute fin de journée entre la Normandie et les Pyrénées. À l'avant de tout cela, sur une large moitié est, un temps très ensoleillé toute la journée. À noter quand même quelques entrées maritimes dans le golfe du Lion, ça va donner un ciel assez chargé entre les Pyrénées orientales et le Gard. Les températures, elles ont baissé ce matin, elles continuent de le faire cet après-midi. 5 degrés prévus à Metz, 6 à Reims, 7 à Mulhouse, 8 à Paris, 9 à Nantes et Lyon, 13 degrés à Toulouse, maximum pour la Corse avec 19 degrés retrouver à Bastia.
Merci Valérie. Et pour 13h, on a prévu une petite météo pour vous, Jane Birkin. C'est vous qui serez à la manœuvre.
Le journal inattendu sur RTL.
Après l'attaque au couteau de London Bridge qui a fait 2 morts et 3 blessés hier après-midi, à l'endroit même de l'attentat de 2017, les Britanniques se sont donc réveillés ce matin avec stupeur en apprenant le profil du tueur, un homme de 28 ans qui avait été condamné en 2012 à 16 ans de prison pour terrorisme. Mais comme le veut la règle du système judiciaire britannique, il avait bénéficié il y a tout juste un an d'une remise en liberté conditionnelle. Il portait d'ailleurs un bracelet électronique lorsqu'il est passé hier à l'action. C'était à l'occasion d'une conférence consacrée justement à la réhabilitation des prisonniers. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL.
Oui, c'était effectivement un événement organisé par l'université de Cambridge avec des étudiants et des professeurs qui étaient présents. Le thème était en effet la réhabilitation des prisonniers. Elle se tenait à Fishmonger's Hall, côté nord du pont de London Bridge, et apparemment Ousmane Khan, l'assaillant, faisait partie des ex-prisonniers invités. Le secrétaire d'État en charge de la sécurité, Brandon Lewis, a parlé au micro de la BBC.
La police cherche à savoir si l'individu a enfreint des règles attachées à sa liberté conditionnelle. Mais ce que le Premier ministre a annoncé, c'est que nous allons étudier ceci. Les peines imposées à ces criminels odieux et violents sont-elles assez longues, sont-elles assez sévères ?
Alors, Ousmane Khan avait été arrêté en 2010, soupçonné de préparer avec 8 autres hommes une série d'attentats à la bombe, à la Bourse de Londres, Big Ben et l'abbaye de Westminster. En 2012, un juge a estimé qu'il faisait partie des djihadistes les plus endurcis du groupe. Il avait été condamné à une peine de prison à la longueur indéterminée. Un système qui permettait à l'époque de garder une personne derrière les barreaux aussi longtemps qu'elle était considérée comme un danger pour la sécurité du public. Mais peu de temps après, ces peines sans fin ont été abrogées. Ousmane Khan a donc fait appel. Il a été condamné à 16 ans de prison. Étant incarcéré depuis 2010, il a bénéficié du droit automatique et la libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. C'était en décembre 2018. Boris Johnson, hier soir et cet été, a fait savoir qu'il voulait revoir ce système automatique.
Marie Billon, donc en direct, la correspondante d'RTL à Londres. Jane Birkin, c'est...
J'ai regardé le BBC hier soir jusqu'à 1h, 2h du matin. Et ils ont tiré surtout l'attention à cette heure-là, hein, du matin, sur le courage des passants à Londres. Mmh. Parce que c'est eux qui ont maîtrisé la personne, ouais. C'est eux qui ont mis leur vie en danger en essayant de protéger les autres. C'est plutôt ce côté-là qui était sur les première page des journaux hier soir, c'était le courage des passants à Londres, des londoniens. Donc,
mais voilà. Vous comprenez cette polémique qui monte beaucoup évidemment en Grande-Bretagne sur la libération à mi-parcours de sa peine, libération automatique d'ailleurs selon la loi britannique.
On peut pas avoir des avis sur tout, je trouve. On nous demande nos avis alors qu'on sait rien du tout. Mon père était probation officer, c'est-à-dire qu'il veillait que des garçons n'allaient pas en prison pour une première offense. Il était contre la prison, il trouvait que dedans, personne n'apprenait quoi que ce soit, qu'il n'y avait pas de... à cette époque-là, pardon, il n'y avait pas d'éducation dans les prisons et il veillait que les gens n'aillent pas, il portait garant à eux. Donc moi, j'étais toujours... j'étais éduquée par lui, donc j'essayais de voir toujours de comment on peut mieux faire pour emmener alcools anonymes, narcotiques anonymes dans les prisons, de faire l'éducation dans les prisons, de l'art dans les prisons, des pièces de théâtre dans les prisons, pour que les gens ne soient pas coupés ou juste mis dans leur petit groupe, etc. Oui.
Voilà. Encore 2 informations avant la première pause. En France, au moins 4 dépôts pétroliers de l'Ouest sont actuellement bloqués au Mans, à Brest, à Lorient et à Rennes. Action menée par les entrepreneurs de travaux publics qui dénoncent la suppression de la niche fiscale sur le gazole routier. Ils se disent déterminés à passer le week-end sur place. Mais du coup, le gouvernement a publié ce matin au journal officiel un arrêté qui permet aux chauffeurs de dépasser de 2 heures la durée de conduite journalière. Et cela pour accélérer, pour fluidifier la distribution du carburant. Et puis sachez aussi qu'un entrepôt d'Amazon de Montélimar est bloqué depuis ce matin par environ 200 personnes, des militants intermondialistes notamment, qui dénoncent le Black Friday et l'impact sur le climat de la surconsommation.
Vous avez vu le film de Kenneth Loach ?
De Ken Loach.
Les passerons, à propos justement de les livreurs de Amazon et leur vie absolument.
C'est une nouvelle forme d'esclavage ces livraisons.
Terrifiant.
On marque une pause. Allez, on se retrouve dans un instant dans le journal inattendu de Jane Bilkrin avec l'hommage aux deux victimes du pont de Mirepoix et puis le combat de Bernard Tapie qui veut remonter sur les planches. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu de Jane Birkin avec Vincent Parisot sur RTL.
On va dans la région de Toulouse parce que des centaines de personnes se sont rassemblées ce matin pour une marche blanche à Mirepoix-sur-Tarn. C'est là qu'il y a 15 jours, un pont s'était effondré au passage d'un camion. Le drame avait fait 2 morts, une adolescente de 15 ans et le conducteur du poids lourd qui d'ailleurs n'aurait jamais dû emprunter ce pont. Patrick Tégéraud, vous êtes sur place pour RTL. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions.
Oui, et c'était un moment de recueillement à la fois pour Lisa, cette jeune victime de 15 ans, et pour Damien, le conducteur du convoi trop lourd pour le pont. Le cortège est parti de l'école car ce sont les enfants qui l'ont souhaité. Sandrine accompagnait donc sa fille et son fils. La mère de Lisa est aussi sa voisine.
Du coup, pour nous, c'est important d'être là pour la soutenir aussi.
Cette marche silencieuse. Beaucoup d'émotions sont.
Oui.
Vous avez amené donc des fleurs.
C'est les fleurs blanches pour la petite Lisa et la fleur rose pour.
Alizée tenait absolument à participer.
Se recueillir, rendre un hommage à ses victimes, aussi une pensée pour la famille.
On ne fait pas de différence entre les deux victimes.
Oh, pas du tout, pas du tout.
Mathéo, 17 ans, avait les larmes aux yeux.
Je tenais à être ici, parce que Lisa était une amie. C'est très dur de se dire qu'on ne la reverra plus.
Ce qui doit être compliqué et dur aussi quand on est d'ici, c'est de se dire que c'est aussi quelqu'un du pays qui a provoqué la catastrophe.
On y pense, bien sûr, il n'aurait pas dû passer sur le pont, mais c'était pour son boulot. Je pense que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Chaque fois que je passe devant le pont, j'ai le visage de Lisa qui revient.
Et la foule s'est dispersée sous une pluie fine, laissant un mur de fleurs roses et blanches devant les ruines du pont.
Patrick Tégéraud en direct donc de Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse. C'est le week-end de la grande collecte des banques alimentaires. Elles en appellent donc à la générosité des clients de plus de 8000 supermarchés aujourd'hui dans toute la France. Vous êtes invités à offrir des denrées, si possible des denrées non périssables. Les bénévoles espèrent collecter plus de 11 000 tonnes de produits pour fournir 24 millions de repas aux plus démunis. Dimanche dernier, sur TF1, Bernard Tapie avait donné des nouvelles bien peu rassurantes sur son état de santé, notamment expliquant que son cancer avait progressé et désormais avait atteint les poumons. Et pourtant, énorme surprise hier soir lorsque le metteur en scène Philippe Hersen a annoncé sur sa page Facebook que Bernard Tapie allait remonter sur scène pour reprendre Vol au-dessus d'un nid de coucou qu'il avait déjà joué il y a 20 ans, Marion Ferrer.
Et au départ, Bernard Tapie et Philippe Hersen planchaient sur une idée de comédie musicale. Puis la maladie et les chimios ont tout balayé. Mais quand le dramaturge s'est vu proposer les 20 ans de Vol au-dessus d'un nid de coucou, impossible de faire sans Bernard Tapie.
J'ai tout de suite proposé à Bernard, qui m'a dit « formidable idée ». Mais pas hésiter, de toute façon, c'est un tel battant, un tel fonceur. Et je pense que c'est un objectif, comme il a, bon, il est quand même gravement malade. Il m'a toujours fait référence à Ali, tu vois, à l'idée, il a fait les vieilles canailles, ça l'a motivé, il a gagné un an et demi de sa vie, voilà. Donc c'était une vraie motivation là-dessus.
Et la pièce en est pour le moment à sa conception artistique. Le metteur en scène l'assure, il s'adaptera à la santé de son acteur. Mais en réalité, c'est bien Bernard Tapie qu'il faut freiner.
Je disais encore hier soir, on fait 5-6 représentations. Je dis, alors, j'ai autant étalé ça sur un certain nombre de semaines. C'est un tel tempérament, on arrive en rendez-vous. Bon, il est un peu fatigué par ses protocoles, par sa chimio, par tout ça. Et là, en fin de réunion, il est comme fou. Il se lève, il voit comment est le personnage de McMurphy. Enfin, c'est un extraterrestre. Bernard est un extraterrestre.
La première est attendue en mai 2020. Philippe Hersen table sur 25-30 représentations et une petite tournée en France.
Merci Marion Ferrer. Jane Birkin, le spectacle malgré la maladie, le spectacle avec la maladie.
Je pense que la maladie, on peut se sentir terriblement seul. Donc il y a quelque chose dans notre métier qui est absolument une chance fou, et c'est de pouvoir être avec les gens, en fait, de partager des émotions avec les gens, d'en donner mais d'en recevoir terriblement. Hier soir, j'étais avec ma fille Lou, qui jouait à Vélizy, et les gens qui étaient là, mais vers elle, et elle qui chantait, mais divinement, ça. Je pense qu'on est sauvé parfois quand on est très malade, que parfois la meilleure chose, c'est de ou très malade, quand on est très triste aussi, c'est parfois d'aller voir un film, de basculer dans la vie des autres, de voir une pièce, d'être embarqué ailleurs. Et de même pour les chansons et des concerts. Et je suppose que si on est vraiment en train de mourir, comme ça a l'air, ben à ce moment-là, je suppose que c'est le dernier contact que vous allez avoir avec les gens. C'est un réconfort où nous avons cette chance, parce que sinon, les autres braillent dans le bus, braillent dans le métro, personne ne les écoute. Nous, on nous écoute. C'est une grande chance.
Merci, Jane. Évidemment, on reparlera de la maladie. Je rappelle que le professeur Vincent Lévy sera tout à l'heure votre invité à 13h, parce que vous le dites et vous l'écrivez. Il vous a sauvé la vie.
Oui.
Du football, ça a dû faire plaisir à Bernard Tapie, la victoire de l'OM sur Brest 2-1 hier soir. L'OM qui conforte sa deuxième place au classement. Strasbourg-Lyon, 17h30. Les autres matchs dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France. Avec Vicente Lizarazu de 20h à 21h pour revenir sur le tirage au sort de l'Euro 2020. Pour les Bleus, ça commence à 18h30 en direct dans On refait le match avec Eric Silvestro. Un mot de handball féminin. Au Japon, ça commence mal pour les Françaises, tenantes du titre. Une défaite face aux Sud-Coréennes, 29 à 27.
Le reportage inattendu.
Alors, Jane Birkin, votre reportage inattendu, vous avez souhaité le consacrer au bio et à deux marchés que vous fréquentez, j'imagine. Le marché couvert de Saint-Germain et celui de la Place Monge, c'est là que vous allez faire vos courses?
Oui, j'ai vécu 5 ans à côté de la Place Monge et ma joie le dimanche matin, c'était de partir avec mon panier sur les roulottes et mon bulldog Dolly et de se promener. Oui, en effet, il y a un formidable marché de légumes et de fruits qui est Place Monge, qui est bio. Mais il y avait toute l'atmosphère de tout le reste, tous les vendeurs de poissons, de fromage, de voilà. Et j'ai retrouvé un petit peu une ambiance pareille. Il me semblait que c'était presque Noël et que c'était très joyeux. Et c'était le marché Saint-Germain aussi, où il y a un petite bio et le poissonnerie que j'adore.
Eh bien, on y va, justement, en immersion avec Romain Hougue.
Eh bien oui, je suis dans la halle du marché située au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Alors c'est un bâtiment à l'italienne avec ses grandes arcades et à l'intérieur on trouve de tout, poissons, traiteurs, fruits et légumes. L'ambiance est plutôt calme mais conviviale. On va voir ça avec Twiggy Sanders, la fromagère.
Bye bye.
Bon alors vous connaissez tout le monde ici?
Un petit peu oui. Au bout de 45 ans, je pense que je peux connaître tout le monde.
Comment est-ce que vous travaillez? Comment vous vous fournissez?
Alors nous essayons de travailler un maximum avec des petits producteurs, des produits de ferme, des produits de qualité. Enfin, on fait ce qu'on peut en tous les cas.
Hein. Edouard, client fidèle, valide complètement.
Je suis un enfant du quartier et les meilleurs produits, on les trouve dans ce marché. On ne trouve pas l'équivalent en grande surface.
Des produits de qualité, c'est le credo ici, hein, chez tous les marchands et les clients d'ailleurs ne s'y trompent pas. Mais ce n'est pas le seul critère. Je vous voyais demander l'origine de l'huile d'olive. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une huile d'olive française?
Oui, en principe, je préfère. Parce que je suis française, alors... Voilà, j'essaye de favoriser les choses françaises.
Et sur ce marché, comme sur d'autres, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans cette quête du produit français, local et désormais aussi bio. Et ça, on va aller le constater, Place Monge, dans le quartier latin, où quasiment tous les étals affichent ce petit label vert.
Laurent, c'est combien les gariguettes, hein?
Après 25 minutes de marche, me voilà donc sur la place. C'est ici que ça se passe, autour de la fontaine, 3 fois par semaine. On y trouve des pommes bio, des poires bio, des poireaux bio, bref, les produits labellisés sont légion et c'est précisément ce que viennent chercher beaucoup de clients, parmi lesquels Fanny, une habituée.
Je viens tous les dimanches parce qu'il y a un primeur que j'adore, qui est bio depuis 3 générations, mais qui n'a pas l'étiquette bio.
Alors pourquoi est-ce que c'est important pour vous de manger bio et local?
Bio, c'est pour l'aspect individuel de santé et local, c'est pour l'aspect environnemental de responsabilité. Je vois pas comment on peut penser différemment.
Jérôme aussi est un habitué, mais lui se trouve de l'autre côté du stand. Ce maraîcher a eu comme un déclic écolo.
Il y a 15 ans, j'ai eu mon premier enfant et la première chose que j'ai voulu faire pour lui, c'est le faire manger sainement. Donc à partir de ce moment-là, on a été guidé vers les produits bio
Et qu'est-ce que c'est un produit bio en fait concrètement?
C'est un produit qui ne contient pas de produits chimiques, qui ne contient pas de substances qui seraient nuisibles à la santé. Un produit sain.
Seul bémol que beaucoup mettent en avant, le prix du bio, même s'il a considérablement baissé ces dernières années, il reste en moyenne 20 à 30% plus cher.
Voilà, on y était hein, avec ce reportage de Romain Houk. On avait l'impression de faire nos courses avec vous, Jane Birkin. Vous êtes bio, vous mangez tout bio?
Je ne mange pas tout bio du tout. Quand il y a des enfants, j'essaie, et j'essaie surtout d'aller toujours vers les petits commerçants. Je ne vais jamais dans les supermarchés. J'y crois dans une sorte de boycott personnel. Si on a envie que des fermiers soient payés comme il faut, etc., il faut peut-être payer plus cher, il faut peut-être manger beaucoup moins de viande. Il y a un endroit dans le marché Saint-Germain où les cochons courent dehors. Moi, je trouve ça intolérable, l'idée de la cruauté animale. Et de moins en moins de viande, peut-être un peu plus de poisson et les légumes. Moi, j'adore faire la cuisine. J'adore que les gens soient nourris quand ils arrivent chez moi et qu'ils repartent.
Le ventre bien plein après avoir bien mangé.
Exactement.
Jane Birkin, Post-Scriptum, c'est le deuxième volet des mémoires de Jane Birkin. On ouvre le livre dans un instant. À tout de suite. .fr.
Journal inattendu sur RTL avec Jane Birkin et Vincent Parisot.
Tu me dis je n'ai jamais vu l'océan. Qui sait là-bas, c'était plus marrant. J'ai compris ta philosophie, baby. Ta façon de voir la vie.
Baby Lou, Jane Birkin, Baby Lou sur l'album Baby Alone in Babylon en 1983. C'était une ancienne chanson de Serge Gainsbourg que vous avez, je crois, reprise en clin d'œil à l'arrivée de Lou, la fille que vous avez eue avec Jacques Doyon. Et c'est un peu quand même, voilà, je veux dire, le début de ce livre, le début de cette nouvelle vie, l'après Serge Gainsbourg que vous racontez.
Oui, oui, c'est l'après et la suite.
Oui.
Je trouvais ça marrant d'appeler ça post-scriptum parce que c'était plus grand que le premier. Donc parfois, quand je fais des interviews, vous aurez remarqué que je divague d'une telle manière que c'est plus long que juste des réponses. Donc oui. C'est.
Il n'y a pas que ça que j'ai remarqué quand même. J'ai remarqué que, comme souvent, ce que vous écrivez est paradoxe. Culpabilité, mésestime de soi. Je vous cite, mars 1983, j'aime tant Jacques, enfin je ne peux pas vivre sans, j'en suis malade, comme à 18 ans, parfaitement malade de lui, je me sens vieille, sans beauté, ni de l'âme, ni du corps, ma beauté mentale, je l'ai perdue en quittant Serge. Et ça revient, cette mésestime de vous-même, ça revient régulièrement, Jane Birkin.
Je crois que je suis très lucide. Donc c'est une lucidité au contraire. Et je suppose psychologiquement il y avait je m'en voulais d'être heureux probablement quand j'y étais, et puis je suis une regretteuse. Donc c'est des caractères assez compliqués à vivre hein. Je pense que tout le monde a connu ça avec des séparations, me semble-t-il, de son vouloir, d'avoir eu cette chance que j'ai eue, et je le souhaite à tout le monde de pouvoir rester amis alors que nous n'étions pas avec par exemple Serge.
Vous parlez de Serge un peu plus tard, en mai 83. Je ne garde que les bons souvenirs comme une vieille adolescente. Personne ne m'aura aimé autant que lui. Voilà mon drame et je le sais.
Oui, je pense que c'est vrai en plus. Je le savais là, parce que c'était un amour qui n'avait pas de... qui était total d'une certaine manière, comme celui de mon père. C'était de vous aimer malgré tout, avec tout, en disant « Non, c'est ma faute, c'est moi qui étais impossible, etc. » des essais. Donc c'était un amour pardonneur qui était exceptionnel.
« Paradis, musique Alain Chamfort.
Chamfort, après mes bilous.
Sur l'album À la légère 98, votre premier disque sans aucun titre de Serge. Et à l'époque, vous vous demandez si vous avez le droit de chanter autre chose que des chansons de Serge, parce que c'est comme une infidélité.
Ben, je me demandais si je valais quelque chose sans lui. C'était une vraie perplexité pour moi de savoir si les gens me suivraient, si j'avais un quelconque intérêt, si je n'étais pas attachée à Serge. Donc c'était un peu terrifiant de se lancer tout seul, et c'est grâce à Philippe Le Richomme qui a dit, bah alors, à ce moment-là, si tu vas demander à d'autres auteurs, sois complètement infidèle et on va demander à 12, 13. Mmh.
On est moins génial. On est moins infidèle quand c'est à plusieurs. Voilà ce qu'il vous a expliqué. J'allais dire, le premier disque de Jane totalement sans Serge Gainsbourg. On va y revenir évidemment, parce que ce n'est que le début de Postscriptum, ce livre publié chez Fayard. On va y revenir tout à l'heure, après avoir reçu votre premier invité, le professeur Vincent Lévy, qui est accueilli, l'homme qui vous a sauvé la vie, dites-vous. Avant cela, on va rappeler l'info, et vous allez faire Madame Météo, Jane Birkin. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL. Communauté.
Il est 13h01.
Le journal inattendu de Jane Birkin.
13h, les titres de l'actualité. Vincent Parizeau.
Avec le choc et la polémique en Grande-Bretagne après l'attaque au couteau de London Bridge qui a fait deux morts hier après-midi. Le terroriste abattu par la police était sorti de prison l'an dernier après avoir effectué la moitié de sa peine de 16 ans de prison. Il avait alors été condamné pour terrorisme, justement. Il portait d'ailleurs un bracelet électronique au moment de son attaque. Une grande marche silencieuse ce matin à Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse, en hommage à l'adolescente et au chauffeur du camion mort dans l'effondrement d'un pont il y a 15 jours. Des dépôts pétroliers bloqués dans l'ouest de la France, un mouvement d'entrepreneurs de travaux publics contre la suppression de la niche fiscale sur le gazole non routier, la grande collecte de la banque alimentaire ce week-end dans 8000 supermarchés, et puis Bernard Tapie, le spectacle malgré ou avec la maladie, le metteur en scène Philippe Hersen annonce que l'ancien patron de l'OM va remonter sur scène au printemps pour vol au-dessus d'un nid de coucou. Dimanche dernier sur TF1, il avait pourtant annoncé que son cancer avait désormais atteint ses poumons. Bernard Tapie qui a dû apprécier la victoire de l'OM hier soir. Suite de la Ligue 1 cet après-midi, Strasbourg-Lyon 17h30, 18h30. Notez le tirage de l'Euro pour les Bleus à suivre sur RTL. Championnat du monde de handball féminin au Japon. Les Françaises se sont inclinées pour le premier match 29-27 face au Sud-Coréenne. Et alors, vous êtes Madame Météo, Jane Birkin.
Eh bien, je suis désolée parce qu'il va pleuvoir cet après-midi de la Bretagne jusqu'au Pays Basque et la Normandie au Limousin. Ailleurs, le soleil dominerait. Seul le golfe de Lyon devrait compter avec les nuages de plus en plus nombreux au fil des heures. Les températures iront de 5% jusqu'aux 18 degrés, pardon.
5%.
En 5 à 18 degrés entre Verdun et Nice. Et il ferait 9 degrés à Paris.
Bon, sortez les bottes alors.
Ça ne changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Et nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. La gadoue,
version symphonique. On reviendra tout à l'heure sur ce disque et cette tournée qui ne s'achève toujours pas. Avant de recevoir votre invité, le professeur Vincent Lévy, une question de celle qui était à votre place ici même samedi dernier, Annie Dupéret.
Ma chère Jane, as-tu comme moi un souvenir merveilleux des galas de l'Union que nous avons fait ensemble ? Moi au trapèze, là-haut, et toi en équilibre sur un fil. C'était magnifique.
Vous marchez sur un fil, c'est ça ?
Bah oui, quand tu sais que je ne marche même pas droit dans la vie. C'était... Mais peut-être avec la concentration, c'était plus simple. Ouais. J'avais un super professeur qui était russe, qui venait de le cirque de Moscou, et qui m'avait appris comment marcher sur un fil de fer. Il ne faut juste pas tomber avec un jambe d'un côté et un de l'autre. Donc j'avais une coquille où il fallait. Et j'étais déguisée en lapin. Il fallait que je ramasse des carottes tout le long de la ligne. Je trouvais ça un tout petit peu indigne, étant donné que je risquais ma vie. Mais
oui, parce que vous étiez pas à 20 cm du sol, vous étiez très haut.
Voilà, j'étais très haut. Mais avec Annie, nous sommes partis à Santa Monica pour faire le show de la Gala de Union en Amérique. Elle était incroyable, parce que cette fois-ci, moi j'avais des patins en roulette avec Nono. Je tournais autour de sa tête à 90 degrés, c'était absolument hallucinant. Mais elle, encore plus, elle était en haut, sans filet, avec un numéro de trapèze hallucinant. Mais elle était... Je n'ai jamais vu une actrice risquer sa vie comme ça.
Ouais. Elle était sans sécurité pour faire ce numéro de trapèze.
Oui.
Ouais. C'est assez incroyable. Moi, j'aurais bien voulu vous voir avec les oreilles de lapin quand même. Peut-être qu'on peut retrouver les images. En tout
oui,
cas,
j'avais une queue aussi.
En tout cas, marcher sur un fil, ça vous a poursuivi, j'allais dire, jusqu'à l'hôpital et l'hôpital Avicenne de Bobigny. Vous avez souhaité inviter le professeur Vincent Lévy, qui est assez présent dans ce post-scriptum, surtout sur les années 2010-2012. Bon, tout d'abord, on vous accueille. Bonjour, professeur Lévy. Merci d'être là. Avant de parler de l'hôpital, quand même, je voudrais vous lire. Professeur Lévy est entré comme un clown sublime, chapeau en papier, cape stérile blanc, chaussures en papier. Il les retire, les lance nonchalamment dans ma poubelle avec la grâce d'un adolescent. Vous parlez de ses grands yeux, que j'ai sous les miens d'ailleurs, comme des lacs d'incertitude, d'un homme souriant et pourtant aussi malheureux que vous. C'est lui l'homme qui vous a sauvé?
Oh ben ça c'est un peu dramatique, je ne sais pas, entre Dr Livet et Dr Simbelista, les deux ont fait des concoctions qui fait de la sorte qu'ils ont su quoi faire à un moment donné où c'était un peu compliqué. Mais ma joie de me trouver à l'hôpital Avicenne et avec Florence Simbelista et professeur Livet... Et tous les infirmières, les personnes avec lesquelles j'étais tellement attachée à la fin, c'était comme une deuxième maison. Et comme je n'avais pas peur des hôpitaux parce que mon père s'y trouvait en permanence, même l'odeur me plaisait beaucoup.
Ah oui, vous sentiez à l'aise. Heureusement, parce que vous y avez passé combien de temps à Avicenne?
Beaucoup. Beaucoup. Je connais la petite chambre, je connais des poubelles,
on parle de plus d'une année.
Moi, je ne sais pas.
J'ai 18 mois.
J'ai fait à peu près tous les étages, il me semble, surtout.
bonjour, professeur bonjour. Lévy. Comment vous réagissez à ce que vient de dire d'ailleurs Jane Birkin sur le fait qu'elle se sentait bien? On ne se sent pas forcément bien dans un hôpital, surtout, j'allais dire, là où on traite les cancers.
Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est l'ancienneté de notre connaissance. On s'est connus il y a bien longtemps maintenant. Les choses sont arrivées progressivement. Et puis surtout que, évidemment, il y a le professeur Simbelista, il y a moi, mais il y a toutes les équipes autour, tous les médecins, tous les paramédicaux que Jane a pu rencontrer au cours de son parcours. Ce qui fait que je pense que l'atmosphère était plutôt rassurante. Et le fait d'être à Avicenne, paradoxalement peut-être, était encore plus rassurant que d'être dans un autre hôpital à Paris intramuros, puisque personne ne la connaissait. On pouvait aller à la cafétéria sans être dérangé.
C'était dingue et j'admirais beaucoup, parce que je savais très bien, si j'avais été dans une clinique privée, on m'aurait vendu en deux secondes.
Là, vous n'avez jamais eu...
Alors que là, j'étais sur les brancards, etc., avec des selfies qui auraient pu se faire. Les gens étaient d'une discrétion, comme si ils étaient contents de m'avoir là et qu'ils me défendaient. C'était...
Alors, ces personnels soignants, des infirmières aux aides-soignants, aux médecins, vous les avez entendus ces derniers mois dénoncer l'état actuel de l'hôpital public. Vous avez envie, Jane Birkin, de porter leur cri plus haut, plus fort?
J'ai toujours eu envie. Je trouve qu'en ex-patient ou comme patient, on ne peut que constater comment on avait été traité et que la façon qu'eux, ils travaillent. Donc il faut peut-être que professeur Lévy nous dise qu'est-ce qu'on peut faire.
Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Et Vincent Lévy, il y a quand même eu des mesures qui ont été annoncées il y a quelques jours. Ces mesures, on est loin du compte?
Alors, oui, on est loin du compte. C'est un effort significatif vis-à-vis de la santé, mais qui doit être transformé à plus long terme pour l'ensemble de la médecine publique et repositionner l'assistance publique et tous les services publics de façon plus raisonnable sur le plan financier et puis les rendre surtout plus attractifs qu'elles ne le sont devenues. Mmh. À tous les niveaux, depuis l'aide-soignant jusqu'au professeur de médecine.
Ça veut dire augmenter les salaires.
Entre autres, oui. En particulier des personnels infirmiers, paramédicaux. Tout simplement parce que ces salaires sont plus bas que la plupart des autres propositions qui leur sont faites, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine paramédical, que ce soit dans le domaine de la recherche même maintenant. Donc l'attractivité des structures publiques est moindre qu'elle ne l'était. Son prestige est toujours réel, mais même à ce niveau-là, on voit de plus en plus partir, moi je le vois en vieillissant, des collègues professeurs de médecine à la paix ou ailleurs, qui partent, et pas pour des raisons financières, pour des raisons qui sont essentiellement liées à leurs conditions de travail et à leurs conditions...
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur métier comme ils l'imaginent, ils l'envisagent.
En tout cas, la qualité de ce qu'ils pensent pouvoir proposer à leurs patients n'est souvent plus suffisante pour qu'ils s'autorisent à rester dans ces structures. Mmh. Et d'autres structures leur proposent probablement des conditions d'exercice meilleures.
Vous ne l'avez pas ressenti pourtant, ça, Jane Birkin, ce manque de moyens
Écoutez, quand j'étais arrivée à l'hôpital à Bobigny, la première fois, je m'en souviens, c'était dans une délabration absolue. Et j'ai rendu compte tout de suite que, parce que c'était dans le 93, c'était quand même autre chose que, je sais pas, l'hôpital Saint-Louis, par exemple. Et c'était une raison de plus de vouloir faire tout ce qu'on pouvait pour que ça soit mieux. Là, c'est nettement mieux. Les tâches de professeur Olivier est même tout à fait impeccable. Mais c'est vrai que on sentait tout de suite que c'était autre chose que les hôpitaux à Paris.
Alors, pour sauver vraiment l'hôpital, les personnels disent qu'il faudrait 1,5 milliard d'augmentation annuelle du budget dès 2020. Or là, on a 300 millions cette année, 200 millions pour les années suivantes. Ça veut dire qu'on va rester dans cette spirale, dans cette mauvaise spirale, que ce n'est pas suffisant pour en sortir.
Disons qu'il serait probablement nécessaire non pas simplement de prendre des mesures ponctuelles, mais de les prolonger sur le temps et surtout de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de la santé, pas seulement l'assistance publique ou le public, mais réfléchir depuis la formation des médecins et des soignants jusqu'au problème d'attractivité et de maintien en place de la structure publique, parce qu'elle reste d'abord très désiré par l'ensemble de la population. Ça reste quand même...
Et justement, est-ce que c'est pas un peu aux usagers, aux malades, à leur famille, à la population qui, vous l'expliquez, est très attachée à l'hôpital public, aujourd'hui peut-être de prendre l'affaire en main, parce que le sentiment est qu'on vous a un peu entendu, mais pas totalement.
Disons que les moyens qui sont à la disposition des soignants sont quand même modestes, puisque faire grève pour un soignant ne veut pas dire arrêter de soigner, donc heureusement. Et effectivement, les associations de patients commencent à se mobiliser, elles ne sont pas encore visibles, mais je pense que c'est un des moyens de pression, je dirais, pour maintenir un service public au niveau où on espère tous l'avoir.
Parce qu'aujourd'hui, il ne l'est pas.
Il le reste, mais à titre d'exemple, j'avais ce matin un collègue pédiatre, et vous avez entendu sur d'autres antennes et dans la presse, ces cas qui ne sont pas uniques de nécessité de transfert de réanimation de l'Île-de-France en province pour des enfants. Ça ne s'était jamais vu. Il y a eu ces deux derniers mois 17 enfants qui ont dû être transférés, qui à Caen, qui à Reims, qui à Orléans, alors qu'ils étaient dans un hôpital d'Île-de-France et en CHU. Montre... C'est un signal de l'État, par exemple de la pédiatrie, mais je pense qu'on peut décliner ce genre de problématique avec toutes les spécialités.
Eh ben, en tout cas, espérons que vous serez entendu. Jane Birkin, vous en parlez finalement peu.
De quoi?
Vous en parlez d'Avicenne et de ce que vous avez vécu là-bas. Vous en parlez dans le livre, mais...
De les choses amusantes.
Voilà.
On va pas gonfler les gens avec des choses qui sont pas amusantes. Et de toute façon, j'avais un joie de retrouver les infirmières en plus qui avaient l'air d'être contentes là où il était. Donc je savais que le service de professeur Olivier était plutôt gay parce que c'était des visages souriants qui vous accueillissaient. Donc comment être triste à ce moment-là?
Merci beaucoup, en tout cas, professeur Vincent Lévy, d'être venu. Et ben vous en entendrez et vous lirez certaines choses hein, sur, effectivement, ce service du professeur Vincent Lévy et sur Vincent Lévy lui-même dans ce post-scriptum de Jane Birkin. Merci beaucoup.
Merci.
Et on retrouve Jane Birkin dans un instant.
Oh, ma mélodie. Ma
mélodie, Nelson.
Aimable petite.
Jane Birkin est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Venez découvrir avec RTL le journal inattendu sur RTL.
Avec Jane Birkin et Vincent Parisot.
J'ai touché le fond de la piscine dans une petite bulle marine. Tout déchiré au cou, mais j'ai pas voulu recourir. Mais tu m'avais donné, je me sens tellement abandonnée. Y a pas qu'au fond de la piscine, mes yeux semblent marines. Tu les as perdus.
Voilà, le pull marine Birkin, Gainsbourg, symphonique. Le disque d'ailleurs est sorti il y a 2 ans. La tournée continue. Vous serez d'ailleurs ce soir dans la Somme pour un spectacle. C'est assez marrant ce que vous racontez en 1985, c'est ça, 1983, la naissance du disque Baby Alone in Babylon. Après la séparation avec Serge, il vous fait écouter des mélodies. Celle-là vous plaît particulièrement et il vous dit, c'est ce que vous racontez. Il vous dit non, celle-là c'est pour Adjani. Ça a dû vous vexer, ça.
Bah, c'était fait pour.
Ouais, c'était fait pour ça.
C'était un petit pic.
Ouais.
Il n'y avait aucune raison qu'il écrit une 33 tours pour moi. Étant donné qu'on était séparés, j'avais aucune contrainte ni rien. Et il me fait venir rue de Verneuil, où en effet, il me fait écouter les mélodies, de mettre sur un papier des étoiles quand je trouvais ça bien. Et j'ai quand même réparé les deux sushis qui fait le bonheur. Il n'y avait pas de texte, hein, juste les mélodies. Et puis j'arrive à celle-ci et je mets mes 4 étoiles, etc. Et c'est là où il dit, ah non, c'est pas Jenny. C'est le moindre des choses.
Notre amour fou ne resterait qu'au décembre. Moi, j'aimerais que
et puis 85, Serge vous écrit les paroles de ce tube magnifique. J'ai envie de dire, comme dans Je suis venu te dire que je m'en vais, c'est la chanson d'une séparation, la douleur de la rupture malgré l'amour éternel. Rupture et amour éternel, c'est quelque chose qui revenait régulièrement.
C'est si exceptionnel que je ne sais pas comment répondre. Pourquoi c'était une bêtise italienne avec une mélodie très forte, je trouvais. Donc j'avais demandé à Serge, qui est quand même gonflé de ma part, s'il ne voyait pas des paroles françaises dessus, s'il ne pouvait pas faire une version française. Je pense que c'était comme une grosse mouette en italien, c'était aucun intérêt. Alors que Serge avait fait quoi ? Et quand j'ai lu le texte, quand je l'ai chanté, oui, ça, j'ai rendu compte qu'il avait mis le maximum de sentiments dans le minimum des mots et que c'était des coups de couteau. C'était d'une telle beauté, un tel enchaînement de mots, très compliqué à chanter. Et le Richomme a emmené ça à Paris. Et j'ai entendu ça, j'ai dit ça va, j'ai bien fait. Et j'ai juste entendu un sanglot. Alors je savais que j'avais bien fait.
Et qu'on soit que c'est de ma mort à la vie.
Alors la musique, on pourrait évidemment continuer ainsi, mais il y a aussi le cinéma, parce qu'il y a un film, il y a votre film, qui s'intitule d'ailleurs toujours Boxes.
Vous me voyez le dos cassé avec les courses et vous bougez pas le cul.
Non. Ça t'aurait coupé le plaisir de souffrir.
J'ai jamais su te comprendre.
Mais je suis simple à comprendre. Silence.
Non, papa ne vient pas manger. Comprendre ? Ne viendra plus jamais manger.
Vous étiez livré son mode d'emploi, fallait se démerder.
I can't take any more memories.
Box Hill, c'est l'histoire d'Anna qui vit avec ses trois filles de trois pères différents. Box Hill, ce sont les cartons de déménagement qui sont pleins de souvenirs. Box Hill, c'était le film de votre vie.
Oui, et il demeure d'ailleurs. J'espère qu'un jour, quelqu'un prendrait peut-être le texte et le ferait en pièce de théâtre, avec des portes qui s'ouvrent, les ex-maris, les filles. J'avais une telle grande chance d'avoir Lou Doyon qui jouait dedans, Adèle qui jouait la première fois, et j'avais Piccoli, j'avais Geraldine Chaplin, j'avais John Hurt, j'avais Jackie Cario, j'avais Benichou, j'avais toutes les personnes pour lesquelles j'avais un si grand attachement comme acteur, Piccoli comme père, mais je rêvais de ça. Et j'ai pu refaire vivre tout le monde. Et je crois que le déchirement entre les enfants, la mère qui se sentent qu'elle avait mal fait, aussi l'idée qu'on a de soi, qu'on avait été un enfant en larmes, compliqué à comprendre, souffrant, et ma mère qui me disait c'était pas comme ça, tu étais pas comme ça, tu étais un clown. Et voilà, j'ai mis dans la bouche de Geraldine cette rectification dans les bouches des pères, avec Natasha Rainier si superbe qui jouait avec John Hurt, où John Hurt disait mais c'était pas comme ça, c'est toi qui es parti, c'est toujours ton point de vue. J'ai pu leur donner leur point de vue, ce qui est absolument pas le cas dans les journaux intimes.
Oui, ça c'est vraiment vous. On retrouve effectivement tout cela dans Postscriptum, Jane Birkin, ces journaux intimes, c'est différent effectivement de cette, finalement, de cette mise au point que vous avez fait dans Boxes, en donnant d'autres points de vue peut-être sur ce qu'a été votre vie.
Oui, j'ai mis tout dans Boxes. J'espère si je casse ma pipe et montrer ça sur le télé, même à minuit.
Ben, on n'est pas pressé.
J'aimerais bien que les gens le voient.
On se retrouve dans un instant, Jane, avec une autre icône des années 70. Tiens, ici au cinéma, avec Depardieu, dans Maîtresse de Barbet Schroeder.
Moi, on ne me pose jamais de questions parce que soit je mens, soit je ne réponds pas.
Eh bien, on va quand même lui en poser dans un instant. Bulogier sera avec nous, à tout de suite.
Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll.
Jane Birkin est l'invitée du journal inattendu sur RTL. RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Jane Birkin et Vincent Parisot.
Didouda, 73, redécouvert par une nouvelle génération, ceux qui regardent la série La Casa des Papel, c'est dans la bande originale, je vous la prends pas ça quand même.
Ah bon ?
Si, je vous la prends. C'est dans la bande originale de La Casa des Papel. Et donc les jeunes découvrent aussi Didouda. Tiens, jusqu'au moment, on parle série, cinéma, je sais qu'il y a un film qui vous a bouleversé, c'est Les Misérables.
Ah, j'ai un tel coup de poing, un tel... tellement juste, un parcours sans faute dans ce film avec les trois acteurs qui jouent les policiers, tous les garçons, des adolescents. Enfin, on est bouleversé début jusqu'à la fin. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour le dire parce que tout le monde a salué ce film.
C'est bien de le dire et je crois que vous aviez envie. Et puis, il y a un livre que vous avez beaucoup aimé. Pas seulement vous, il a obtenu le prix Médicis dans les essais, livre d'une comédienne que vous connaissez bien. Si je devais donner qu'un seul nom, point commun, c'est Jacques Rivette, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Bonjour Bulogier.
Bonjour. Bonjour Vincent Parisot. Bonjour Jane.
Oh écoute, j'ai eu un tel coup de foudre pour ce livre, mais le premier jour, je l'ai acheté avec Jean-Marc Granger. L'originalité beauté, la classe, la loufoquerie de ta vie, le délicatesse. Enfin, c'est une d'une précieuse merveille. Merveille.
J'ai oublié, hein, c'est le titre de ce livre de mémoire, c'est assez forcément étonnant, écrit avec Anne Diankin, titre étonnant pour des souvenirs, les meilleurs et puis aussi les drames, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez oublié, Bulogier ?
Oh, beaucoup, des pans entiers de ma vie. Et je sais qu'avec Jen, on parlait souvent de nos mémoires qui étaient absentes. Je ne sais pas si Jen est d'accord là-dessus. La peur d'oublier.
Et Jen, elle a tout noté dans ses carnets.
Tout noté,
au long de sa vie.
Voilà. Elle a tout, elle a tout marqué. Et je ne comprends pas comment elle a eu le temps de faire cet énorme travail de chaque jour, étant donné tout ce qu'elle faisait. Et tout ce qu'elle fait, toujours, mais elle ne fait plus son journal. Et ça, je dois dire, c'est un tour de force d'écrire. Moi, j'ai essayé d'écrire des haïkus à une certaine période, pour résumer en une phrase, une journée.
Oui.
Mais j'avoue que qu'on voit Jen aller aux quatre coins du monde, dans les endroits les plus dangereux pour donner du plaisir un petit peu avec ses tours de chant.
On raconte aussi facilement les drames. Jen, vous avez arrêté d'écrire ce livre le 11 décembre 2013. On pense bien sûr aussi à la disparition de votre fille Pascal, Bulle, au cancer contre lequel vous avez lutté toutes les deux. Les souvenirs reviennent quand même.
Oui, bien sûr, il y a des tas de choses qui reviennent, évidemment. Quand je dis j'ai oublié, c'est que quand on m'a proposé de faire ce livre, j'ai dit non, je peux pas parce que j'oublie. Mais c'est pas tellement vrai. Donc c'est à partir des oublis que les souvenirs sont revenus.
Merci.
Mais des souvenirs, mais d'une folie. Alors, tes films avec Barbet, tes voyages. Je sais pas si je pensais que ma vie avait été un peu pimentée, le tien. Mais alors, c'est complètement dingue. Moi, je dis, lis ce livre avant de s'endormir et on a des rêves incroyables.
De vie pimentée, celle de Bulogier, évidemment à lire dans J'ai oublié. Et puis, Jen Birkin. Postscriptum, votre vie, la presse Serge. Merci beaucoup d'être venu dans ce journal inattendu.
Merci.
À très bientôt. Tout de suite, Jean-Alphonse Richard, confidentiel consacré à Dominique Strauss-Kahn.
RTL, le journal inattendu.
L'invitation.